BFM Politique. Benjamin Duhamel.
Vous regardez BFM Politique, notre invité Michel-Édouard Leclerc. Et juste avant de commencer à vous poser des questions, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous allez voir apparaître à la droite de l'écran ce QR code qui vous permet, vous, à la maison, eh bien, de le flasher et d'interroger directement Michel-Édouard Leclerc. On relayera vos questions tout au long de l'émission. Michel-Édouard Leclerc, nous sommes à 15 jours de Noël. On va parler des cadeaux et des jouets dans un instant, mais d'abord l'alimentaire et les repas de fête. D'après une enquête du FC Que Choisir, l'inflation concernant les produits alimentaires pour les repas de Noël s'élève à 9,2% entre 2022 et 2023. Les produits les plus touchés sont les vins, les légumes. Les Français vont encore devoir se priver malgré les fêtes ?
Ils vont moins se priver parce que c'est quand même une inflation divisée par deux en cette fin d'année. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'inflation et c'est pour ça que Leclerc ne s'est pas associé aux campagnes préemptant que ça y est, la baisse des prix allait arriver et tout ça. Donc le ministre de l'économie voulait que je le dise plus haut, plus fort, mais on est en train de négocier pour avoir des bonnes conditions d'achat en ce début d'année prochaine. On aura des bonnes conditions d'achat parce qu'on est allé les chercher sans métaphore guerrière, on est allé les chercher sportivement, voilà. Et là, pour Noël, il y a quand même des baisses. On pourra en reparler si vous voulez, mais il y a quand même des secteurs en baisse. Et surtout, il y a moins de pénuries. C'est un facteur plutôt positif. La saison démarre assez tard. Les jouets, c'est que maintenant. Et puis, le Black Friday conditionne un petit peu le rythme de la consommation. Moi, j'y croyais pas trop à ce truc-là.
Il y a 3-4 ans. Pourtant, ça a marché, là. Ouais, même cette année, malgré l'inflation.
Voilà. Avant, le public n'achète pas. Ouais. Il attend de voir les grosses réductions, les grosses remises sur Black Friday. Et après, suivant ce qu'il a réussi, ce que le public a réussi à avoir pour Black Friday, le rythme est très soutenu jusqu'à Noël.
On a l'impression que les Français tardent de plus en plus à acheter leur cadeau de Noël. C'est à cause de quoi ? À cause du Black Friday ou à cause du contexte inflationnel ?
C'est à cause du contexte inflationniste d'abord, parce que tout était cher l'année dernière. Et l'année d'avant aussi, c'était très cher. Donc, tout le monde s'attend à ce que... C'est ce qu'on lit dans le journal, c'est ce qu'on lit dans le Parisien. Dans la mesure où les industriels sont restés avec des stocks sur les bras, on s'attend à ce qu'ils fassent des belles opérations de promotion, des opérations dites de dégagement. Donc, tout le monde attend pour pouvoir profiter de ces opérations-là. Attention, hein, là, je parle de gens qui ont de l'argent, mais il y a quand même une poche de pauvreté plus grande que l'année dernière et que l'année d'avant avec cette inflation. Il y a aussi beaucoup d'arbitrages qui se feront, non pas en déconsommation, mais avec moins de consommation.
Et on va parler dans un instant de la question des négociations commerciales que vous abordiez, également des cadeaux, mais une question de Gaëtan Ménin sur l'alimentaire pour Noël.
Oui, Michel-Édouard Leclerc, est-ce que le saumon, le foie gras seront des produits abordables pour les Français les plus modestes ? Vous l'avez dit, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des produits qu'ils pourront mettre sur la table à Noël ?
Ouais, franchement, dans toutes les enseignes, je pense que oui. Je généralise. Mm-hmm. Hein. D'abord parce que même s'il y a de la grippe aviaire encore en France, elle est mieux maîtrisée. La gestion des couvoirs, la gestion des élevages de volailles est mieux maîtrisée. Il ne faut pas oublier non plus que la communauté européenne a passé un accord privilégié avec les producteurs ukrainiens. Et c'est d'ailleurs un problème pour les éleveurs français, c'est qu'il y a du produit ukrainien dans le foie gras, dans le canard. Et donc, en tout cas, il n'y a pas pénurie ou il n'y aura pas pénurie. Sur le plan du saumon, vous savez, c'était des mets que de mon temps, on n'avait qu'une fois par an.
Bien sûr.
Et maintenant, les Français les consomment.
Et maintenant, on les consomme comme cela. Et d'ailleurs,
pas tout le monde ne peut consommer.
Oui, mais quand même, tous les nutritionnistes disent le bon gras dans le saumon et tout ça. Donc aujourd'hui, les productions de ces aliments se font toute l'année. Et j'ai l'impression que pour Noël aussi, en tout cas là, je parle plus chez nous, les stocks sont... C'est pas la peine de se précipiter, quoi.
Alors justement, est-ce qu'il va y avoir des opérations commerciales ? Est-ce que les Français doivent attendre le dernier moment pour acheter ces produits ou bien est-ce qu'ils doivent profiter des promotions qui sont mises en avant aujourd'hui par les distributeurs pour ne pas se retrouver finalement piégés avant Noël et les acheter plus cher ?
Je peux parler pour moi, j'ai 6 petits-enfants depuis le Covid. J'ai été faire des cadeaux maintenant parce que...
Mais pour l'alimentaire,
ce que je voulais.
Michel-Édouard Leclerc, on reste d'abord sur le saumon, le foie gras. Est-ce que c'est le moment de les acheter ou bien est-ce que chez Leclerc, par exemple, à une semaine de Noël, vous allez faire des opérations spéciales
sur ces produits ? Les prix de ce qui est en rayon ne bougeront pas, sauf opération de dégagement. S'il y a trop de stock, à ce moment-là, ça peut être intéressant pour les consommateurs. Peut-être qu'ils en ont acheté un petit peu, d'aller dans l'enseigne où y a un moins 50% parce qu'il ne faut pas qu'il en reste. Ça, c'est la part de risque.
On parlait avec Gaëtan de ces deux produits associés à Noël, le foie gras, le saumon. Vous disiez plus généralement, il y a des prix qui sont en train de baisser et de produits qui peuvent se retrouver sur la table des repas de Noël. À quoi est-ce que vous pensez comme produit ?
Je pense que le Noël peut être festif. Vous voyez,
il peut être festif et vous dites aux Français... Vous pouvez vous faire plaisir sans casser votre tirelire.
Moi, je pense. C'est-à-dire que, vous savez, la distribution, c'est un formidable observatoire des comportements de la société française. Vous avez vu comme on nourrit beaucoup les rapports d'études des sociologues en ce moment, ou des sociopolitologues. Oui, je pense qu'il y a une envie de se faire plaisir en famille. On vient de vivre 3 cycles de consommation très perturbants, très perturbés, 21% en 2 ans d'inflation alimentaire. Là, on retrouve une inflation qui est encore élevée. Attention, je prédis pas les baisses. Je dis que pour le moment, là, à Noël, c'est moins cher, mais moins cher qu'hier, pas moins cher qu'en 2019. On peut se faire plaisir. Alors, il y a des dérives de consommation. Par exemple, le champagne se vend moins bien, parce que le champagne a pété les plombs, il a pété les bulles.
C'est-à-dire que les prix ont augmenté très fortement.
Alors, on voit bien que les vins italiens pétillants, on voit que les créments, tout ça, ont pris la place. On voit aussi que même sur les foie gras, c'est pas forcément les appellations les plus prestigieuses aujourd'hui. Elles sont là, il faut les avoir en rayon. C'est comme les grands crus dans les vins. Mais je dirais que ce qui est luxe marche bien dans les magasins de luxe. Et par contre, dans nos hypermarchés, c'est plutôt l'entrée de gamme qui cartonne.
C'est-à-dire qu'il y a des changements de comportement.
Ouais, 35%.
On remplace le champagne par le mousseux, éventuellement le foie gras.
Le saumon par la truite fumée.
Par la truite, éventuellement le foie gras par aussi plus de pâté ou de terrine, voilà. Des choses comme ça. Ouais.
Et moi, j'ai été très impressionné. Je n'y croyais pas, je peux le dire. On a des débats dans l'enseigne tous les jeudis, tous les lundis au mardi. Je ne pensais pas que nos gammes premier prix, chez nous, ça s'appelle Eco Plus, chaque distributeur a une gamme premier prix. Je ne pensais pas qu'on allait augmenter de 35% ses ventes.
Mais ce sentiment de déclassement, finalement, parce que c'est cela, c'est de dire aux Français, eh bien, je n'ai plus les moyens de m'offrir les produits que je m'offrais encore il y a 2 ans, et aujourd'hui, je suis obligée de prendre la gamme inférieure. C'est un sentiment de déclassement.
Il y a du déclassement, et je soutiens ça, et je trouve que le politique ne l'entend pas, et notamment aussi chez les chefs d'entreprise. Mais ce n'est pas que du déclassement, c'est aussi une maturité. C'est-à-dire que pourquoi mettre si cher dans un truc festif où on est en famille, on veut épater qui ? Et là, c'est là où on voit que les femmes sont préconisatrices, que les jeunes sont préconisateurs. La bière, par exemple, c'est un bien qu'on mettait moins pendant les fêtes de Noël. La bière, les foires à la bière, aujourd'hui, menacent. La croissance des foires au vin. Et puis, le champagne, c'était un peu un code social. Aujourd'hui, dans la jeunesse, c'est beaucoup plus diversifié.
Avec même une croissance des boissons sans alcool.
C'est pour ça que je parlerai moins de déconsommation, moins de décroissance et plus de consommer autrement. Je ne sais pas si on a là une ligne indicatrice pour demain, mais là, dans ce qui se passe en ce moment, c'est pas de la déconsommation, c'est pas négatif.
C'est le changement d'habitude de consommation.
C'est d'autres combinaisons qu'on essaye de tenter. Et aussi, parce qu'il y a d'autres choses à consommer, des abonnements à Netflix, des abonnements partir en voyage. Le tourisme repart. Leclerc est deuxième voyagiste français. On n'a jamais eu autant de gens qui partent. Et vous savez que le choix des zones est limité vu de la géopolitique. C'est très important. La location de voiture, la location de logement, la location de logement de vacances, ce sont des nouveaux critères de consommation qui viennent remplacer finalement l'achat de l'alimentaire. L'alimentaire peut-être... vous connaissez peut-être les lois d'Engel, l'alimentaire va peut-être revenir à 14-15% des dépenses des ménages.
Et on va continuer à parler des habitudes des Français, mais avant ça, une question d'Olivier Beaumont sur les cadeaux. Évidemment, il n'y a pas de Noël,
il y a la table, mais il y a aussi les cadeaux. On a du mal à observer aussi les tendances sur les jouets de Noël aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que vous observez dans vos magasins ? Et est-ce qu'il peut y avoir aussi des bonnes surprises pour les consommateurs français sur l'achat des jouets ?
Vous avez des enfants ?
Oui.
Vous avez déjà repéré les cadeaux?
Pas encore. Pas encore.
Non, c'est pas bien ça, Olivier.
Et vous?
Oui.
Je vais vous la jouer hyper macho. Vous avez acheté la nouvelle Barbie?
Non.
Non.
Enfant trop grand.
Et vous?
Non, moi j'ai pas. Non, moi j'ai pas d'enfant et j'ai fait quelques-uns de mes cadeaux, mais donc les poupées Barbie pour les adultes, c'est peut-être un peu moins le.
Parce que
le,
ça, Barbie, ouais. Ça marche avec le film qui est sorti. Oui. C'est vrai que c'est un succès. Auquel je m'attendais pas non plus, enfin, assez extraordinaire. Je pensais qu'avec les débats sur le genre et tout ça, c'était un peu.
Même si le film avait, comment dire, aussi une façon de critiquer les stéréotypes véhiculés parfois par les poupées Barbie. Mais donc, la question d'Olivier sur les tendances, sur les cadeaux et sur ce que vous proposez dans les rayons de Leclerc, est-ce que là encore, les Français peuvent acheter sans se ruiner?
45 à 50% des jouets, ceux qui sont comparables avec ceux de l'année dernière, sont en baisse. Sont en baisse de 3 à 5%. Ils ont été achetés il y a 6 mois, 1 an. Ils ont bénéficié d'une baisse des coûts des containers, des coûts de transport de M. Saadé. Donc aujourd'hui...
qui est le patron de CMA-CGM.
Qui est le patron de CMA-CGM, qui avait fait des super profits l'année d'avant pendant le Covid à l'Ukraine. Et donc, il y a des belles opportunités sur le jouet, que ce soit dans les magasins spécialisés, genre Jouet Club, ou chez nous, ou chez Carrefour. Après, il y a les jouets de licence. Ceux-là, ils ont augmenté parce que les licences, ça coûte cher. Et
c'est par exemple les films Marvel ou des choses comme ça.
Voilà, ou des jeux vidéo liés. Je ne me rappelle plus comment s'appelle ce très beau film numérique Cameron.
Avatar.
Ça sort en DVD, en CD. Mm. Ouais, tout ce qui est musique, tout ce qui est vidéo, film... les jeunes ont tendance à ne pas l'acheter ne pas acheter les supports parce qu'ils considèrent que c'est fini. Dans la réalité, il y a un marché décroissant certes, mais du 33 tours,
Mais il y a des surprises, il y a des surprises dans les jouets là, dans les tendances qui émergent. Ouais. Alors là, par exemple,
tous vos journaux ont listé les jouets qu'il fallait avoir. Je reconnais que je ne les sais pas par cœur, mais oui, il y a des très beaux enregistrements de concerts, il y a beaucoup de compiles de la génération rock, de la mienne, et puis il y a et puis tous les derniers films qui ont marqué. Alors le Cameron, il sortira que l'année prochaine, je crois.
Michel-Édouard Leclerc, les Français ont commencé justement à acheter leurs cadeaux de Noël dès le mois d'octobre, puisqu'ils étaient déjà en rayon, parce qu'ils étalent leurs achats pour que ça soit un peu moins élevé. Est-ce qu'il faut encore attendre pour acheter les derniers achats, les cadeaux de Noël? Est-ce qu'il va y avoir des promotions? Est-ce que vous allez mettre en place quelque chose la toute dernière semaine de Noël?
Mais c'est sûr. Non, ça a démarré qu'il y a 15 jours, enfin Black Friday, d'accord? Avant, c'était plat. Là, maintenant, il y a un très bon rythme de consommation, d'achat, dans tout circuit. Tout circuit. Hein,
j'ai les chiffres, vous dites très bon rythme de consommation, c'est par
c'est
rapport
positif,
à l'an dernier?
C'est positif.
D'accord.
Mais en fait, personne n'a encore fait sa saison. Il faut tenir jusqu'au 25 décembre. Et je pense que 4 jours, 5 jours avant, le marché va être canardé par des prix bas parce que personne ne va vouloir garder des stocks pour l'année prochaine. Simplement, il y aura beaucoup de pénuries. C'est-à-dire que ce que les fournisseurs... C'est un calcul à faire. Si vous avez déjà votre base pour offrir, c'est bien. Ne vous précipitez plus, mais si vous n'avez pas les jouets essentiels,
vous risquez 4 jours avant de ne plus les trouver dans les magasins. Un mot, je rebondis sur ce que disait Gaëtan, par rapport à, et on va l'aborder tout à l'heure, la question générale de la déconsommation, on en parlera sur tous les achats alimentaires, non alimentaires des Français. Est-ce que là, aujourd'hui, le 10 décembre, les Français achètent autant de jouets que l'année dernière? Est-ce qu'ils en achètent plus? Est-ce qu'ils en achètent moins?
Pour le moment, un peu moins.
Un peu moins.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'on continue à avoir les stigmates de cette inflation, même si, vous le disiez, elle est moins forte que l'année dernière.
Alors, attention, hein, on n'est pas au comparable, il faut prendre du recul. Mais aujourd'hui, la consommation, en général, elle est positive en valeur, vu l'inflation. En volume, elle ne l'est pas. Ce n'est pas la catastrophe, ce n'est pas de la décroissance, ce n'est pas de la déconsommation. On est au niveau de 2019 en consommation. Mais ça peut très bien s'accélérer les 3 dernières semaines. Il faut garder ça. C'est des circuits de Formule 1.
Et avec en plus des vacances scolaires cette fois qui arrivent plus tard. Donc peut-être que les Français s'y prennent un peu plus au dernier moment.
Le livre marche bien. Le livre marche bien. D'abord, les rentrées littéraires étaient belles. Je crois que Leclerc, en 15 jours, on a vendu 208 000 Astérix.
Ah oui.
On a vendu 175 000 Lucky Luke par Blutch. Et le Lagaffe, là. C'est incroyable. Ça, ce sont des valeurs sûres. Alors, pour le coup, je pense que ce sont les papas qui ont acheté ça, parce que c'est quand même une la génération d'avant qui
réachète. Oh là, ça peut être les mamans aussi, éventuellement.
Aussi, si elles l'ont lu avec papa.
Bah, ouais, Lucky Luke, il y a des femmes qui aiment bien ces bandes dessinées.
Sur les objets de décoration, parce qu'on l'a vu aussi, depuis plusieurs mois maintenant, les Français ont privilégié l'alimentaire, ont délaissé tout ce qui est à côté, le blanc, l'ameublement, le bricolage. C'est une tendance très forte que l'on retrouve.
Alors, le blanc va être mis en place que,
à partir du mois de janvier.
Oui, et même entre Noël
et Noël. Est-ce que vous notez aujourd'hui une baisse de vos ventes, notamment dans les décorations de Noël, par exemple? Est-ce que c'est une tendance?
Mais c'est une tendance, mais qui, est aussi, qui n'est pas que liée au pouvoir d'achat. C'est aussi, comme vous, vous ne faites pas de sapin, mais vous mettez du numérique derrière. On a vendu beaucoup, beaucoup d'écrans plats avec des capacités d'allumer la famille, d'allumer la maison, d'allumer le salon. Et donc, il faut faire attention dans l'interprétation. Ce qui est certain, c'est que je peux vous annoncer pour début 2024, il y aura des baisses très sensibles sur le blanc, sur les équipements de la maison, presque moins 10%. Toujours pour la même raison, c'est que les cours dans le sud-est, dans l'Indo-Pacifique et dans le sud-est asiatique ont beaucoup baissé. La Chine est repartie aussi en production et tout ça. Donc là, que ce soit sous des marques de distributeurs, des grandes marques, tout ce qui est drap, tout ce qui est nappe et tout ça, ce sera pas cher. Et après, je vous annonce quand même que pour l'année prochaine, d'une manière générale, l'inflation va être divisée par deux.
Alors, vous me faites...
Je vous fais du commentaire au jour le jour de ce qui est, avec toutes les limitations de ce que ça peut vouloir dire. Mais je viens ici vous annoncer que nous sommes en train de négocier, que nous sommes en train d'acheter pour l'année prochaine. On y va, les Leclerc y vont comme un seul homme. On est des centaines de collaborateurs à négocier tout ce qui va se vendre l'année prochaine. Et l'année prochaine, on entend bien que l'inflation dans nos magasins n'excède pas de 2-3%, c'est-à-dire d'être dans le cœur de l'inflation générale.
Mais alors justement, Michel Leclerc, vous faites la transition. Pour ceux qui nous regardent les chiffres, au mois de novembre, on est à 3,4% sur un an, même si sur les produits alimentaires, c'est 7,6%. Vous dites à partir de janvier, compte tenu des efforts qu'on met dans les négociations avec les industriels, on veut être autour de 2,5. À quel moment ceux qui nous regardent verront les effets concrets de cette baisse de l'inflation dans les rayons?
Février-mars. D'abord, je vous dis deux, c'est ce que j'imagine arriver au point d'équilibre. Dans la réalité, on va demander zéro. C'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui se sont sucrés ces deux dernières années. Je parle de multinationales. On ne touchera pas, c'est un message que je redis.
Eux disent que ce sont les distributeurs. Chacun se renvoie toujours la balle, c'est l'éternel discours. Ah,
si vous trouvez moins cher que nous, vous me le dites et on s'alignera.
Non, c'est le discours industriel.
Non, aujourd'hui, même le président de la République reconnaît que si ces lois ont protégé le marché agricole français, le président lui-même voit que des 20% de dividendes sur 70 grands industriels multinationaux, ou multinationaux, c'est quand même exorbitant. Donc... Et puis, les rapports de l'inspection générale des finances sont clairs là-dessus. Il y a eu des effets d'aubaine, il y a eu des... Donc, on va aller chercher auprès des grands industriels multinationaux du négatif pour compenser l'hyperinflation d'hier.
Sauf qu'eux, ils vous demandent des hausses de prix dans certaines catégories.
Chacun part d'une position. Sur vos plateaux, les présidents de ces fédérations disent, Monsieur Panquiot va vous dire, il me faut 7 pour amortir mes coûts. Système U, Dominique Schulcher va vous dire, moi je vais aller chercher de la déflation. Ça, on négocie. On négocie même quand on est chez vous.
Oui, parce que rappelons pour ceux qui nous regardent, vous dites, nous on vise une inflation autour de 2%. Ça veut donc dire que les prix ne baisseraient pas. C'est une inflation qui ralentit, donc c'est une baisse de la hausse. Est-ce que pour autant, on peut espérer dans vos rayons, à l'espèce, des prix qui baisseraient et non pas qui augmenteraient moins vite?
Oui, entendez un discours positif. Je veux être positif. Je crois que dans la besace, dans notre caddie, on aura des choses positives qui seront doublement présentées. On va avoir des vraies baisses sur des secteurs même alimentaires comme les céréales et les cafés qui avaient énormément flambé jusqu'à 40%, vous vous rappelez, des pâtes, des graines, c'était incroyable. On nous a justifié ça avec la guerre en Ukraine alors que toute la partie où elle était récoltée, elle était toujours debout, il y avait toujours les plans. C'était plus difficile de la faire évacuer par l'ouest que par la mer Noire, mais quand même. Donc les céréales, ça va baisser. les produits à base de céréales.
Donc, les pâtes.
Les pizzas. Ça concerne aussi les restaurants. Hein, ça concerne aussi la restauration collective, mm-hmm. le pain. Enfin, bon. Mm-hmm. Et puis, les pains complexes. Hein. Mm-hmm. Les cafés. Les cafés sont en train de baisser. Le sucre ne veut pas, sa courbe ne veut pas tomber. Mais...
Donc, on reviendra sur des prix.
Donc, ça, c'est pour vous donner un exemple de ce qui va baisser. Mm-hmm. Ce qui va baisser aussi, c'est le grand import. Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, le textile, par exemple, mm-hmm. le textile va baisser de plus de 10% parce que dans un container, ces produits étaient piégés par des containers qui étaient passés de 2500 euros le conteneur à 17 000 euros. Quoi. Vous voyez, mm-hmm. là, ça revient à 2500, voire 1750 euros le conteneur. Donc, ça permet, pour le distributeur qui veut vendre moins cher, ça lui permet de vendre moins cher. Après, il y a ce qui est négocié en France. Ce qui est négocié en France, c'est très balisé. Ce n'est pas transparent de la part des industriels. Je peux simplement faire que deux engagements. Je peux dire qu'on n'ira pas chercher la marge des agriculteurs. Nous n'impacterons pas le revenu des agriculteurs. Nous respecterons la loi Egalim. En revanche, nous demanderons pour toutes les hausses de coûts ou toutes les hausses de prix qui ne concernent pas la matière agricole, nous demanderons à nos fournisseurs de les étaler comme ils étalent l'amortissement de leurs investissements. Nous allons négocier. Et alors, bien sûr, Procter, Unilever, Nestlé, mm-hmm. Qui ont sorti des dividendes jusqu'à 10 et 20%, mm-hmm. Coca-Cola, ce sont des embouteilleurs. La part de matière est très faible mm-hmm. dans ce qu'ils annoncent comme hausse tarifaire. Mm. Et là, on va aller chercher des moins deux. On verra ce qu'on aura.
On va rentrer dans le détail dans un instant.
Je ne peux pas être plus explicite. Hein.
De ces négociations commerciales. Mais donc, pour être très clair, vous dites aux Français et à ceux qui nous regardent, comme le dit Bruno Le Maire, on a vaincu l'inflation. C'est derrière nous.
Alors, pas comme le dit Bruno Le Maire.
Oui, parce que je rajoute que Bruno Le Maire dit, c'est grâce à notre politique économique.
Oui, mais bon, nous, on n'est pas contre de partager un petit peu de notre popularité aux politiques. On n'est pas anti-politique, apolitique, on n'est pas populiste. Donc, si l'État y trouve son compte, c'est très bien. En fait, la réalité...
Est-ce que la France a gagné la bataille de l'inflation ?
Pas encore. Ce sont des enseignes de distribution, mm-hmm. je les cite, ce sont mes concurrents. On a des rapports très sportifs mm-hmm. entre nous. C'est Thierry Cotillard d'Intermarché, mm-hmm. c'est Biro de Lidl, c'est Dominique Schelcher de Système U, c'est Alexandre Bompard de Carrefour. Toutes nos troupes, et c'est le législateur qui l'a voulu, hein, c'est, toutes nos troupes sont aujourd'hui à la négociation.
Donc c'était utile d'avancer les dates de ces négociations commerciales.
En France et en Europe, pour aller chercher... Le meilleur de ce que les industriels proposent aux Européens. Vous avez publié un article dans Le Parisien il y a deux jours sur les Alsaciens qui font leurs courses en Allemagne oui. sur les produits d'entretien. Je pense que si ce n'est vous, c'est votre frère, mais je crois que c'était dans Le Parisien.
Oui, oui.
Et en fait, c'est oui. incroyable que les mêmes boîtes qui nous livrent oui. arrivent à donner à mes collègues Rewe, Allemagne, ou Lidl, ou Aldi, des prix que moi, je ne peux pas faire.
D'accord, mais
on est dans l'Europe, je vais aller chercher.
Mais ça veut dire que les annonces que vous venez de nous faire sur les baisses attendues en janvier, c'est une promesse qui reste fragile aujourd'hui.
C'est une baisse qui reste liée à un résultat.
Oui, donc la bataille n'est pas gagnée, on est d'accord.
Il faut aller se battre.
Bruno Le Maire va un petit peu loin.
Oui, c'est ce que je vous dis, il anticipe. Alors après, il trouvait... Je le connais bien, hein, c'est un bon écrivain, mais c'est quelqu'un qui m'en voulait un peu ou qui me disait, même gentiment, que j'angoissais les Français, ouais, ouais. que j'annonçais l'inflation. Mais moi, je savais que ça se passait dans nos magasins quand même. C'était à nous d'être transparents vis-à-vis de nos consommateurs. Sinon, c'est nous qui allions être caillassés, vous voyez. Et là, maintenant, je me sens suffisamment à l'aise. En retour de marché de mes collègues de la distribution et des centres Leclerc, ils ont déjà eu les hausses tarifaires, les demandes des fournisseurs, ils ont commencé à négocier. Mmh. Je peux vous dire à peu près ce qui va advenir en janvier. Et comme ça, c'est des baisses, nous, on va les appliquer
tout
dès
de suite.
Qu'on les a.
Mais Michel-Édouard
Leclerc... Donc février, quoi. Février, oui.
Michel-Édouard Leclerc, il faut quand même dire aux Français aussi, il faut leur donner un discours de vérité. C'est-à-dire que oui, les prix vont peut-être baisser à partir de février et de mai, mais baisser par rapport à il y a un mois, par rapport à il y a six mois, mais jamais ils ne retrouveront les prix auxquels ils étaient habitués il y a deux ans.
Ah oui, ça c'est sûr.
Oui, mais c'est cela en fait que les Français ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand on leur dit les prix vont baisser, ils ont l'impression, ils ont le sentiment qu'ils vont retrouver la vie qu'ils avaient auparavant.
C'est pour ça que je ne reprends pas mot pour mot ce que dit Bruno Le Maire et Olivia Grégoire. Ils l'auraient peut-être aimé. Moi, je dis, on va chercher. Vous nous avez, enfin, oui. Les pouvoirs publics ont fait un déni d'inflation. Mm-hmm. C'est comme pour le Covid, hein. On n'avait pas les masques. Mm-hmm. Pour l'inflation, dès que je vous en ai parlé mm-hmm. sur les plateaux ici, le politique trouvait que j'étais l'agité du marché.
Et en même temps, c'est eux qui ont décidé d'avancer les négociations commerciales, précisément, pour vous permettre
à la demande des distributeurs.
C'est vrai.
Deux ans et demi après.
Oui.
Il y a 21% d'inflation qui est passée. Donc, moi, j'ai démarré avec l'accord des centres Leclerc sur cette information mm-hmm. que l'inflation allait être forte. C'était deux mois avant les mm-hmm. élections présidentielles. Personne ne me croyait. Nous avons été convoqués à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. On leur a demandé des commissions d'enquête, des missions d'information. Mm-hmm. On ne les a pas eues.
On a souvent pas envie d'entendre les porteurs de mauvaises nouvelles.
Oui, mais si on veut se mettre... Il aurait fallu que tous les industriels se mettent en mode combat dès le début des achats des matières mm-hmm. premières, la négociation des containers, mm-hmm. la négociation des prix de l'énergie. Mm-hmm. Comme ça, on n'aurait pas eu mm-hmm. à répercuter aux consommateurs des hausses qui étaient pour beaucoup spéculatives. Mm-hmm. C'était très spéculatif.
Et justement, les Français n'ont pas vu la baisse du prix du prix des produits qu'ils achetaient avec la baisse du prix des matières premières, parce qu'on a cette spécificité française d'avoir une seule négociation oui. annuelle. Hein, on le rappelle, une négociation qui effectivement a été avancée d'un mois pour permettre d'aboutir à une baisse des prix plus rapidement que d'habitude. Mais vous faites aussi partie des distributeurs qui demandent en fait la suspension de cette spécificité de pouvoir renégocier au fil de l'eau, comme d'ailleurs vous le faites avec vos fournisseurs de MDD, de marques distributeurs ou de premier prix.
Vous vous rendez compte, c'est peut-être un peu compliqué pour un dimanche, mais trois lois en trois ans, je n'ai pas le droit de négocier vraiment un tarif. Mm-hmm. Le tarif, c'est intangible, c'est le droit du fournisseur de fixer son prix. Après, j'ai le droit d'aller lui proposer des services et ça me donne du pouvoir d'achat que je peux remettre dans les prix, mais ça prend du temps. Mm-hmm. C'est comme si j'allais nettoyer le garage du concessionnaire pour obtenir les 8% sur ma Renault. Hein. Vous voyez, c'est moi qui dois aller faire cet effort-là. Après, je suis obligé de prendre une marge de 10% sur l'alimentaire. Quand l'inflation est à mmh. 21%, on m'oblige à prendre une marge de 10%, une marge planchée.
Ouais, mais vous voulez, 10%. Vous voulez revenir là-dessus d'ailleurs.
Bah ouais, mais alors, tous les distributeurs, on est d'accord là-dessus. Hein. Enfin, Dominique Schulcher a dû vous le dire aussi, le dynamique patron de Système U, on est d'accord là-dessus. Et puis maintenant, avec les lois Descrozaille, qui portent le nom mmh. d'un des protagonistes, nous n'allons plus avoir le droit de faire des méga promos.
Hein. À partir donc, sur les produits d'hygiène, et c'est pour ça que vous demandiez notamment ce qui est un
qu'est-ce
moratoire.
Qu'est-ce que l'hygiène a à voir
c'est dans la loi de
protection des agriculteurs. Qu'est-ce que l'hygiène, les couches, les protections périodiques ont à voir avec les intérêts de l'agriculture française?
Mais ça, quand vous le demandez à Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il vous répond?
Mais il est d'accord.
Alors pourquoi ils sont pas...
Alors pour le coup, on est alliés. Ouais. On est alliés objectifs. Dans la manière de faire, c'est différent.
C'est-à-dire que la majorité à l'Assemblée, elle est peut-être un peu moins.
Lui, il a envie d'être élu. Mais moi, je ne me présente pas aux élections. J'anime une fédération de commerçants indépendants qui ont envie d'être les moins chers, qui n'ont pas envie de laisser passer l'inflation. Et donc, on trouve... Mais simplement comme ça, ce n'est pas de la provoque.
Oui, mais est-ce que justement, les bonnes annonces que vous faites là pour aujourd'hui ne vont pas être balayées par ce qui va être appliqué à partir de mars sur cette fameuse loi qui empêchera les super promotions sur les produits d'hygiène, les couches, papier toilette, l'entretien.
Oui, c'est ce qu'ils veulent. Mais je ne sais pas. La question qu'il faut poser, c'est...
Pour les Français...
Dans l'intérêt de qui fait-on ça? Dans l'intérêt de qui limite-t-on les promotions sur les couches et le matériel périodique? Dites-moi, dans l'intérêt de qui? Qui peut s'arranger de ça?
Mais vous dites que Bruno Le Maire...
Et donc... il faut désigner les lobbies, c'est peut-être du billard à trois bandes. Oui. Moi, je ne sais pas et je ne comprends pas que... Et alors, ce n'est pas que le groupe Renaissance qui a voté ça. Mmh. C'est aussi du PS, c'est aussi du LR. Oui. Et donc, à un moment donné, vous vous dites, est-ce qu'ils ont conscience? C'est vrai que les députés avec la loi contre les cumuls ne dirigent plus des cantines, ne dirigent plus des appels d'offres chez eux. Donc, je ne sais pas s'ils ont vraiment conscience de l'impact, du mauvais impact que ça a sur la consommation.
Et on continue cette discussion, notamment sur ces négociations qui ont lieu en ce moment. Mais juste avant, il y a beaucoup de questions de téléspectateurs qui nous regardent. Je vais vous en citer deux. La première, elle vient de Sofiane, qui vous demande si Leclerc va prolonger le carburant à prix coûtant sur l'année 2024.
Alors, on y est là. On est, je pense qu'on, hier, on n'était pas les moins chers. Hier, il y avait Intermarché qui avait fait une opération. Il était 0,1 centime moins cher que nous. Là, il a remonté un petit peu ses prix. Je me suis fait avant de... Mais de toute façon, c'est la bataille entre Leclerc et Intermarché, Leclerc et Système U, et de temps en temps, Géant du groupe Casino, qui mène la danse. Total est à 13-14 centimes plus cher que nous. Je trouve ça extraordinaire qu'il dit à tout le monde, je bloque les prix, ça ne dépassera pas 1,99, mais il se fait du gras depuis 6 mois.
Et donc vous, vous allez continuer les opérations à prix coûtant à partir du mois de janvier ?
Voilà, ce sera peut-être pas qualifié, ce sera pas qualifié de prix coûtant, parce que je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux, ça sert aussi les réseaux sociaux, c'est que quand vous achetez mal, ou quand il y a une station-service qui a mieux acheté que vous, et que vous avez beau être à prix coûtant, ça ne fait pas le moins cher. Donc, j'ai changé ma formulation, c'est « je veux être le moins cher », d'accord ? Prix coûtant ou pas, parce que c'est un, ça ne parle pas aux consommateurs. C'était important pour dire « je ne fais pas de profit », voilà. Mais l'idée, c'est d'être le moins cher. Et depuis la réunion chez Elisabeth Borne, où je m'étais engagé, Alexandre Bompard aussi, en partie d'ailleurs, sur les carrefours non franchisés. Je pense que si vous faites la séquence, vous verrez que dans 90% des cas, Leclerc est vraiment le moins cher. Le moins cher, ce n'est pas toujours facile, parce que quelquefois, vous êtes moins cher, donc tout le monde vient chez vous, vous videz vos cuves, et vous êtes obligé de les reconstituer au prix nouveau du marché, qui est peut-être à 3 centimes plus cher que le voisin. Donc pendant quelques heures, vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas moins cher.
Deuxième question de Thierry, qui vous demande si vous pensez racheter quelques hypermarchés ou supermarchés du groupe Casino, qui, pour ceux qui nous regardent, est en ce moment en grande difficulté. Il y a une grève des salariés et il y a, je crois, près de combien 500 magasins ou 400, plus de 300 super et hypermarchés du groupe qui sont en cours de cession.
Casino, quand je suis rentré dans la distribution, c'était une des plus belles, un des plus beaux groupes, une des plus belles enseignes avec... des leaders assez charismatiques, Antoine Guichard, qui avait travaillé avec Martine Aubry sur la réinsertion, le stade de foot. C'est sûr que ça montre que tout est vanité.
Ça... Et alors donc, est-ce que vous pourriez racheter quelques-uns de ces hyper ou super ?
Je pense que quelques-uns de nos adhérents en province pourraient en acheter. On a acheté certains géants qui font partie du groupe Casino. Maintenant, je n'ai pas trop le droit de commenter ce qui se passe là en ce moment. Puisque c'est un groupe coté, c'est un groupe avec des enjeux sociaux, donc je ne vais pas aller mettre des étincelles ou des lueurs
d'espoir. Mais vous pourriez être intéressé par certains de ces magasins.
Toute notre croissance aujourd'hui à Leclerc, nous sommes devenus numéro un de la distribution, nous l'avons fait nous-mêmes, avec nos petits pas et nos grands pas. On rachète de temps en temps. Là, dernièrement, les Leclerc de l'Est de la France, on est une coopérative de commerçants indépendants, il y a 16 coopératives régionales. La coopérative de l'Est a racheté les Coras du Luxembourg. Luxembourg, c'est 700 000 habitants. La moitié des habitants venaient déjà chez Leclerc en France. Et donc là, c'est de l'extension. On est capable de le faire. Est-ce qu'on a intérêt à le faire ? Le parc de Casino est assez vétuste. Ils n'ont pas réinvesti. C'est la force du groupe que j'anime, c'est que ce sont des entreprises familiales qui réinvestissent tout le temps. À la première marge, au premier profit, ils réinvestissent dans leurs magasins, si bien que ce n'est pas simplement parce qu'on est moins cher qu'on a eu 800 000 clients supplémentaires depuis un an, c'est aussi parce que les magasins sont embellis, sont modernisés, on développe le service. Dans les groupements d'indépendants, Leclerc, Intermarché, Système U, Intersport, on en parle moins dans le marché non alimentaire, c'est la force de ces groupes-là.
Et je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez continuer à interroger directement Michel-Édouard Leclerc avec ce QR code qui apparaît en ce moment à l'écran. Juste avant de relayer ces questions de téléspectateurs, vous évoquiez les produits qui allaient baisser, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Pour quels produits vous vous dites là, compte tenu de l'état des négociations avec les industriels, ça va augmenter, soit parce qu'il y a des demandes excessives, soit parce que les matières premières font que les prix doivent augmenter. Quelles sont les mauvaises nouvelles, là, pour le coup, que vous pouvez donner aux Français ?
Alors, on est en plein cœur de la négo, je ne vais pas vous dire...
En tout cas, pour lesquelles c'est mal parti.
Avec Coca, par exemple,
Tous les grands multinationaux, c'est mal parti. Parce que même le patron de Coca, il a annoncé qu'il ne voulait pas descendre en dessous de 7%. Je suis président d'une école de commerce qui s'appelle Neoma, et c'est issu de la fusion de l'ESC Reims et l'ESC Rouen. Pour les étudiants, je lui ai proposé de venir parler aux étudiants. Il a expliqué aux étudiants que lui, il avait des coûts et qu'il avait une marque indétrônable et donc il demandait 7%.
Il met en avant l'augmentation du sucre, l'augmentation de l'emballage, puisque
c'est de l'eau, du sucre et du quinoa. Hein, c'est...
Exactement.
Mais en même temps, quand vous regardez les dividendes, c'est des entreprises qui sont cotées. Vous voyez bien qu'il y a aussi
mais en même temps, il y a un rapport de force.
Une marge.
Il voit bien que les Français consomment du Coca, continuent d'en acheter encore plus. Vous ne pourriez pas vous passer de Coca-Cola.
Est-ce que vous pourriez déréférencer
Vous êtes parisien ?
À côté, en Ile-de-France.
Ah ouais, parce que nous, en Bretagne, on a Braise Cola. Donc ça,
Oui, je connais très bien.
Est-ce que vous pourriez
le succès sans être désagréable pour le Braise Cola est un peu moins
stagnant que le Coca-Cola. Vous voyez que quelquefois, c'est la distribution qui a le rapport de force, mais sur 50 ou 60 marchés, par exemple les produits pour animaux, je sais plus, les pet food, c'est, même les produits où sont situés les groupes comme Unilever, Procter, deux industriels multinationaux, au mieux trois, font 80% du marché. Donc on est 6-7 distributeurs français, mais aussi des autres distributeurs européens, plus ou moins alliés, à essayer d'obtenir des meilleures conditions d'achat.
Et vous allez réussir à les contraindre en l'espèce Coca, ou il faut que les Français se préparent de toute façon
Je vous réponds, mais j'ai pas oublié la question. Ouais. Donc la question, c'est, j'espère bien, monsieur, mais je suis dans la négo, et si je disais là ce que j'avais obtenu, j'ai encore un mois à négocier, donc mes collaborateurs ont un mois à négocier, je vais pas vendre la peau de l'ours, et si je peux avoir mieux, je mets tout de leur côté pour avoir mieux. Donc, ce n'est pas fait. Donc, on verra plus tard.
Michel-Edouard, vous appelez d'ailleurs de vos voeux.
Ça va, la réponse ? Non ?
C'est le secret des négociations, peut-être, mais on vous réinvitera à la fin des négociations.
Vous appelez de vos voeux, justement, les grandes centrales d'achat qui vous permettraient, justement, de tordre le bras aux industriels et d'obtenir les prix les plus bas. Ouais. Mais du côté du gouvernement, on n'est pas favorable à ces centrales d'achat.
Oui, ils ne sont pas clairs.
Et justement, cette semaine, Intermarché et le groupe Auchan ont annoncé leur coopération au sein d'une même centrale. Pourquoi
Alors,
ça coince avec le
Intermarché
et
Auchan, ça reste sur le territoire français. Ce que Bercy n'aime pas, c'est qu'on fasse comme les banquiers, la téléphonie, l'aérien. C'est-à-dire que ça ne vous choque pas KLM Air France. Mm-hmm. Ça ne vous choque pas dans le service public qui est Arte, franco-allemand. Mm. Dans la téléphonie, M. Drahi, il a des accords européens qui fait que quand on part avec SFR quelque part et quand on va en Italie ou en Allemagne, on a une proposition tout de suite qui se fait sur notre téléphone. Nous, dans la distribution, le lobby des multinationales est tel qu'il veut cloisonner l'Europe au niveau de chaque pays. Et donc, il ne veut pas que j'aille m'allier, je l'ai fait, ils ne veulent pas qu'on aille s'allier avec des Allemands pour acheter, par exemple, les produits d'entretien ou les produits de toilette, les produits de santé, qui sont moins chers en Allemagne. Parce que l'Europe, elle a été faite pour les consommateurs. Mm-hmm. Normalement, un produit moins cher partout en Europe devrait profiter aux consommateurs français.
Mais pourquoi ça coince ? Comment vous l'expliquez ? Pourquoi vous...
La pré-vente d'une protection nationale qui ne dit pas son nom, parce que sinon, elle serait condamnée par la Commission européenne.
Mais c'est ce que vous soupçonne l'État, d'ailleurs. C'est-à-dire les centrales d'achat qui sont en dehors de France, la vôtre, elle est en Belgique, je crois. Vous n'êtes pas les seuls.
Tous.
Ils vous soupçonnent de contourner certaines lois françaises qui visent aussi à protéger, notamment, les agriculteurs d'avoir des revenus sûrs.
Mais vous qui suivez le secteur politique, vous savez bien que la loi française doit être européenne. Elle doit être pro-européenne. Donc, c'est quand même assez bizarre d'aller mettre du soupçon sur le bon français breton qui s'allie avec un Belge, un Hollandais, et un Allemand pour faire de l'européen. C'est ça qui n'est pas très correct.
J'aimerais qu'on avance et qu'on aborde la question de la déconsommation. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, avait eu cette expression à la rentrée dernière. Il avait parlé d'un tsunami de déconsommation. Est-ce que vous le constatez encore, malgré l'amélioration légère des chiffres de l'inflation? Est-ce que vous voyez encore ce tsunami-là dans vos rayons?
Alors, Alexandre n'a pas parlé de tsunami de la déconsommation. Il a parlé des baisses en volume drastiques de tous les grands industriels qui avaient trop augmenté.
Il avait eu cette expression de tsunami de déconsommation.
Bon, moi, en tout cas, je pense que je ne trahis pas le propos, vous le réinviterez. Mmh. On a une baisse de la consommation en volume. Mmh. On a d'abord toutes ces grandes marques qui ont voulu profiter de l'opacité du marché pour augmenter trop vite les produits. Toute cette consommation étant...
Et d'ailleurs, les marques distributeurs et les marques premier prix...
Nous avons pris leur place. Les marques de distributeurs ont pris leur place. Et c'est la raison pour laquelle, dans la négociation qui est en cours, ça va peser pour nous. Vous avez augmenté trop l'année dernière.
on substitue avec nous, des marques distributeurs.
Je suis d'accord. Coca, je n'ai pas trouvé le substitut. Mais M. Procter, M. Mondelez, tes biscuits, je peux les faire aussi. Et je peux en faire et des meilleurs. Et Nutri-Score, alors que toi, tu ne veux pas du Nutri-Score. Donc, j'ai de quoi négocier. Le patron de Centre Leclerc qui négocie ses approvisionnements avec, grâce à la présence de marques de distributeurs très fortes, peut remplir ses rayons avec des marques de distributeurs.
Mais quels sont les produits qui sont directement touchés par cette déconsommation aujourd'hui ?
Alors, il y a, par exemple, les foires au vin, là. Je pense que j'ai pas les chiffres. Il y en a encore, donc, en Bretagne, elle dure. Et je pense qu'on va faire peut-être en volume 7-8% en moins. Faut attendre la fin de l'année pour avoir toute la déclinaison. Mais le textile a énormément souffert. On parle des chaînes spécialisées qui ont fermé, qui sont en redressement judiciaire. Mais Leclerc, Carrefour, Auchan, Décathlon, on est les plus gros vendeurs de textiles en France. Je crois que Leclerc est le premier distributeur de produits textiles en France. Et c'est un secteur où la population, à la fois pour des raisons budgétaires, mais aussi pour des raisons de prise de conscience de durée de vie des vêtements, la durabilité, etc., ne renouvelle pas son stock. Et donc, il y a l'aspect positif de l'économie qui se traduit par un aspect négatif qui est la baisse des ventes.
Il y a l'inflation subie. Et puis, il peut aussi y avoir des changements de comportement des consommateurs, en partie expliqués par, de fait, l'augmentation des prix. Est-ce que ça, vous pressentez des tendances aussi dans les comportements des consommateurs sur l'alimentaire, mais aussi sur le non-alimentaire ?
Ouais, pour moi, on n'en parle pas. Ici, on parle tout le temps de l'alimentaire, dans les médias, etc. Mais les premières dépenses qui ont augmenté chez les consommateurs en 2023, ce sont les dépenses dites contraintes. Les dépenses de transport, les dépenses d'énergie, quelquefois liées aux les loyers, les assurances. Et du coup, les arbitrages se font plus d'abord sur le textile, sur l'alimentaire, mais ce qui est plus grave...
Le bricolage également, les aménagements intérieurs.
Et ce qui est plus grave, pour ne pas parler que de nos maisons, sur la santé, par exemple. On va moins faire de la prévention chez le dentiste. Les petits bobos, on ne va pas certifier que c'est vraiment qu'un petit bobo et tout ça. Ça, c'est dangereux pour la santé des enfants, puis des gens. Donc, il y a toute une déclinaison, il y a tout un impact de la baisse du pouvoir d'achat ou des modifications de comportement qu'il va falloir analyser. Je trouvais intéressant d'ailleurs que la SNCF propose on n'est pas prêts nous, mais c'est l'idée. Je trouvais que c'était
des cabines de télémédecine. Vous avez dit justement pourquoi pas dans les centres Leclerc, notamment dans des territoires où il y a des déserts médicaux, installer des cabines de télémédecine.
Si mes collaborateurs et si mes adhérents m'entendent là, je pense que c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on fait sur la parapharmacie. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait développer.
Les médecins et les pharmaciens n'ont pas l'air. Les médecins et les pharmaciens n'ont pas l'air emballés. C'est même un euphémisme à l'idée que vous puissiez installer ce type de cabine et de centre dans vos magasins.
J'ai une proposition à leur faire. Je peux la faire ici sur le plateau. En fait, les pharmaciens ne veulent pas que Leclerc, Carrefour vendent de la parapharmacie sans vrai diplômé de pharmacie. Nous disons chiche, on prend des pharmaciens, mais arrêtez de leur taper dedans, ouvrez dans l'ordre des pharmaciens une section des pharmaciens de la distribution, comme il y a une section de pharmaciens de l'industrie ou de la recherche.
Mais c'est mal vu dans le milieu des pharmaciens, justement.
Tout le monde peut évoluer.
Une question de Gaëtan sur une initiative d'un de vos concurrents.
Oui, Carrefour a annoncé cette semaine le lancement d'une assurance, justement, pour venir en aide aux plus démunis qui seraient confrontés à la perte d'un emploi, pour les protéger, justement, dans ces moments compliqués. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez vous-même proposer ?
Ouais, j'ai regardé ce qu'il a fait, j'ai trouvé ça assez compliqué à mettre en œuvre, mais je trouve l'idée très bonne. Je ne sais pas faire ce qu'il fait, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire, je ne tire pas derrière les comptoirs, mais il y a une idée. Ouais.
Je continue sur quelques sujets d'actualité, un petit peu éloigné de vous et en même temps pas tant que ça. Demain arrive à l'Assemblée, dans l'hémicycle, le projet de loi immigration. porté par le gouvernement, avec notamment cette idée au centre du texte, qui fait d'ailleurs débat, de régulariser les travailleurs sans papier pour ce qu'on appelle les métiers en tension. Souvent, le patronat, les chefs d'entreprise sont un petit peu gênés aux entournures quand on les interroge sur ce sujet. Est-ce que vous, Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre et d'un certain nombre de situations, vous dites que c'est une bonne idée de régulariser les travailleurs dans les métiers en tension.
Alors, moi, je m'exprime personnellement. Hein, je trouve qu'il faut régulariser, mais régulariser au cas par cas et individuellement. Je ne fais pas partie de ceux qui disent on efface tout et on recommence. Parce que le problème de la gestion des flux migratoires, c'est que justement, il ne faut pas que ce soit des effets d'aubaine.
Donc, pour des travailleurs sans papier qui sont sur le territoire depuis un certain nombre d'années, dans un métier en tension. Vous, par exemple, il y a des travailleurs sans papier dans les.
Non, c'est plutôt dans les métiers du BTP.
Dans les métiers de la boulangerie, la boucherie, dans les grandes surfaces, vous avez du mal à recruter. Tout ce qui concerne la chaîne du froid aussi.
Mais on a des écoles, je ne sais pas. Le circuit, je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble que les écoles, le cheminement vers lequel on arrive à nos métiers, nous mettent moins dans cette situation-là. On connaît plus nos salariés. On a des parcours quand même dans nos magasins qui sont des parcours de longue durée. 90% de nos salariés sont en CDI. Il y a certes beaucoup d'alternance et tout ça, mais non, je pense qu'on n'est pas prioritairement concerné par... En tout cas, ça ne fait pas de débat autour de moi. Sinon, je vous aurais répondu rapidement. Vous voyez, je cherche dans quelle réunion on a pu...
Une dernière question avant de vous relayer deux questions de téléspectateurs. Vous avez rencontré en janvier dernier le député RN, Sébastien Chenu. Est-ce que vous considérez que les élus RN sont des interlocuteurs comme les autres ?
Je considère que tous les élus sont des interlocuteurs, oui.
Oui ?
Oui.
Inclus donc le Rassemblement National. Certains craignent l'accession au pouvoir du RN, notamment dans les milieux économiques, par rapport à leur programme. Vous ne faites pas partie de ceux qui craignaient l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National.
Je ne suis pas RN, mais je trouve qu'on doit être disponible à tous les élus de la République. Ils ont cette légitimité. Puis je ne vois pas pourquoi je vous en laisserai le monopole.
Nous, on est journalistes, on les interroge. Mais par ailleurs, vous avez tout à fait raison. Par exemple, si Marine Le Pen sollicite un rendez-vous avec vous pour avoir un regard sur le milieu de la grande distribution, vous accepterez de l'avoir.
Mais oui, je suis allé aussi aux universités de la Boétie de Mélenchon. Avec
absolument.
Je rencontre tout le monde. J'ai passé...
Vous l'avez déjà vu, Marine Le Pen ? En rendez-vous ?
Je crois, ici, dans les couloirs.
Donc, pas en rendez-vous, à sa demande. Deux questions de téléspectateurs. Une première qui est signée Pierre-Yves, qui vous dit, Monsieur Leclerc, pourquoi ne vous engagez-vous pas en politique ?
C'est pas que ça m'a pas tenté, c'est pas qu'on m'ait pas sollicité. Deux phrases.
Encore récemment ?
Non, pas récemment, mais j'ai 72 ans, donc ça fait quand même un parcours. Mais j'ai eu l'impression, c'est peut-être une vanité aussi, mais j'ai eu l'impression que je suis plus utile là où je suis. C'est-à-dire que dans la distribution aujourd'hui, on a des vrais effets de levier, y compris face à la contradiction d'une mauvaise loi, d'une loi. Mais vous, par exemple, aujourd'hui, tous les centres Leclerc, on fait la course à l'équipement solaire. La loi n'a pas fini d'être débattue. Il n'y a toujours pas de grande usine, de méga-usine de panneaux solaires. On nous fait passer du gasoil russe aux panneaux solaires
chinois. Pardon, Michel Leclerc, mais je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont envoyé cette question et qui peut-être donc s'attendent ou espèrent que vous entriez en politique.
La politique, c'est des choses, c'est de l'action, c'est des projets, c'est des idées. Donc voilà, sur cette idée de décarbonation, est-ce que je suis plus utile à l'Assemblée nationale à m'engueuler avec les mecs du parti d'en face ? Ou est-ce que les 705 000 mètres carrés de surface solaire qu'on a développé en deux ans et les 300 centres Leclerc qui sont en train de mettre des ombrières, est-ce que c'est pas plus efficace pour atteindre les objectifs de décarbonation que d'aller à la tribune de l'Assemblée nationale ? En fait, je suis assez convaincu que je suis plus utile là où je suis.
Et une deuxième question signée Alice, qui
c'est votre métier, la politique, mais...
qui vous dit la chose suivante. Il n'y a pas d'exclusive. Il y aura les Jeux Olympiques à Paris cet été. Pensez-vous que ça va booster la consommation ?
Je pense qu'on... Moi, je suis très heureux pour Teddy Riner qu'il ait trouvé un sponsor dans la marque Carrefour, mon concurrent. Je pense que ça ne va pas trop booster la consommation sur la région parisienne parce que ça va être très complexe. Ça va être tous les jeux romains, quoi. Ça va être... Mais en même temps, ça met de la pensée positive, ça met de la pensée concurrente au sens sportif du terme. Je pense que la France a besoin d'avoir ses héros. La France a besoin d'avoir, par mimétisme, de rentrer là-dedans. Ouais, ça ne peut faire que du bien. Ouais.
Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc, d'avoir été l'invité de BFM Politique. Je remercie Gaëtan Mélin d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup, Olivier Beaumont. Tout de suite, vous retrouvez Ronald Guintrange et Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h pour C'est pas tous les jours dimanche, avec notamment la première interview de Sébastien Coé qui fait l'objet de 3 plaintes pour viol et agression sexuelle. Je vous dis à ce soir. L'info continue sur BFM TV.